Accès libre.
Bonjour tout le monde, Christiane Campagna avec vous encore cette semaine à Accès libre. Une émission qui est un petit peu en voie de transformation. Vous allez voir des changements dans les prochaines semaines. Peut-être que certains parmi vous s'en doutent un peu puisqu'on avait fait, des annonces disant qu'on cherchait quelqu'un pour l'animation. Mais tout ça est en cours de route et on y reviendra bientôt. Mais en attendant, je suis là avec vous pour parler d'accessibilité, d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on a vraiment un programme très intéressant. On va parler de l'impact de la pandémie sur les élèves et les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage, qu'on parle d'aide aux devoirs, d'apprentissage à distance. Tout ça, ça a des impacts. On en parlera avec la directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage. On va aussi prendre des nouvelles de l'accessibilité de l'information avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec métropolitain, Antoine Perrault, son directeur général. Notamment, il mène une étude ces temps-ci pour connaître si la fameuse application COVID est accessible pour les personnes qui ont un handicap visuel. En tout cas, je peux vous dire qu'elle n'est pas accessible pour les personnes qui ont un vieux cellulaire. Je n'ai pas pu l'installer. On parlera aussi de NANIS, c'est le mois du NANIS, le mois d'octobre. On va parler avec Nathalie Labelle de l'Association québécoise des personnes de petite taille. On va parler, au-delà de la campagne actuelle, d'approfondir un peu qu'est-ce que c'est le NANIS, mais c'est quoi les impacts sur la santé. Mais pour commencer, il y avait un organisme que je voyais passer depuis un bout de temps dans les médias sociaux, mais que je ne connaissais pas bien, que je n'avais jamais booké étonnamment, et qu'elle ne fut pas ma surprise, en plus de constater que l'organisme fêtait ses 5 ans. Alors j'ai dit, il est temps qu'on sache de quoi il en retourne. L'organisme s'appelle Défi sans limite, Défi D-E-P-H-Y-S. Et justement, pour en savoir plus long, on va parler à Maude Massicotte, qui en est la présidente et la directrice générale. Bonjour Maude.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, moi.
Oui, très bien. Ben oui, Maude, je voyais passer le nom de votre organisme, puis on n'en avait jamais parlé. Mais vous fêtez vos 5 ans, donc c'est quand même un passage important pour un organisme.
Pouvez-vous... Oui, effectivement, ça fait déjà 5 ans qu'on existe depuis le 15 octobre 2015. Nous, on est un organisme pour les jeunes de 18 à 30 ans. Notre but principal, c'est de briser l'isolement chez les jeunes de 18 à 30 ans qui ont une limitation fonctionnelle, donc motrice, et qui ont besoin d'accompagnateurs en dehors du domicile pour faire des activités de socialisation. Nous, on est vraiment là pour aider les jeunes et l'accompagner vers une autonomie, une pleine participation sociale. Et justement, nous, ce qu'on recherche beaucoup, c'est vraiment des jeunes qui sont soit encore à la maison, qui ont déjà des diplômes, mais qui sont pas au travail ou encore aux études ou qui font du bénévolat, mais qui, en dehors de tout ça, veulent avoir une vie sociale plus épanouie, mais malheureusement, ils ont besoin d'accompagnateurs et souvent, ils ne peuvent pas ou n'ont pas les moyens de se procurer un accompagnateur pour faire des activités en dehors du domicile également. Et aussi, depuis près d'un an, on fait de la sensibilisation. On s'est rendu compte qu'en faisant des activités, des sorties, malheureusement, la société était un peu... avec la méconnaissance du monde du handicap. Donc, on offre de l'accompagnement aussi et des activités de sensibilisation ou des ateliers dans différents organismes selon leurs besoins.
Oui, parce qu'on se rend compte que dès qu'on veut faire des activités, on se bute à la question de l'accessibilité.
Oui, vous savez qu'après 18 ans, surtout pour les jeunes, on n'a plus recours à du soutien gouvernemental pour pouvoir avoir une allocation pour un accompagnateur comme on pouvait avoir avant nos 18 ans. Donc, on se retrouve un peu à nous-mêmes. Donc, malheureusement, le handicap physique ne disparaît pas à l'âge de 18 ans.
Et donc, si vous avez fondé un nouvel organisme, parce qu'il n'y avait pas dans les organismes existants quelque chose qui répondait à ce besoin-là. C'est vrai qu'on pense beaucoup à l'intégration par le travail, par les études, mais juste sortir entre amis aussi, c'est important.
Oui, effectivement, c'est ça qu'on est. Qu'est-ce qui nous différencie des autres organismes de loisirs qui offrent pour les personnes en situation de handicap? c'est que nous, on fait pas de programmation comme telle. On y va vraiment selon le besoin des jeunes qui veulent faire une activité. Donc, on les accompagne à faire le plan de A à Z de l'organisation de l'activité ou du projet. Ça peut être un projet qu'on fait depuis 2 ans. On essaye de partir une fois par année, 2-3 jours en dehors de Montréal pour justement permettre aux jeunes de pouvoir sortir plus longtemps aussi, de permettre à ces personnes-là de faire un mini-voyage que malheureusement, ils ne pourraient pas faire parce qu'ils n'ont pas d'accompagnateur. Fait que nous, on les accompagne dans ce processus-là pour ensuite trouver des accompagnateurs bénévoles pour les accompagner.
Oui, parce que quand on, malheureusement, à cause du manque d'accessibilité qui est très fréquent, quand on dit organiser des activités, forcément, il faut vraiment tout planifier, hein? Le transport, oui. L'endroit où on va. Donc, c'est à ça que sert votre accompagnement?
Oui, oui, de planifier de A à Z avec chaque membre de l'organisme. Donc, c'est sûr que les membres ont besoin d'être présents, d'avoir la démoralité, qu'ils veulent apprendre aussi à être le plus autonome. Donc, c'est des jeunes qu'on vit le plus possible à rendre le plus autonome.
Évidemment, j'imagine qu'avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Une personne, disons, qui participe à des activités de l'organisme depuis un moment, ça doit devenir plus facile avec le temps de se débrouiller par elle-même?
Oui, puis non, ça dépend. C'est sûr que s'il y a des jeunes qui ont de plus de facilité de communication, plus de choses, nous, on y va selon, on met sur les portes de chacun. Puis on prend les jeunes où ils sont rendus pour les amener le plus loin possible aussi. Donc, on fait, c'est chaque jeune est différent.
Donne-nous des exemples de c'est quoi les étapes pour lesquelles ils ont besoin d'accompagnement?
Que ça soit très simple, qu'ils ont besoin d'aide pour couper leur nourriture, que ça soit pour sortir leur porte-monnaie pour acheter quelque chose ou des billets, que ça soit pour les aider à assister, à mettre leur manteau, à enlever leur manteau. Et ça peut être les assister durant le transport. Toutes sortes d'accompagnement que s'ils n'ont pas ce petit plus-là, ben, ils ne pourraient pas faire la sortie comme peu importe les jeunes.
Est-ce que c'est difficile de trouver des accompagnateurs?
Je dirais que c'est beaucoup plus facile de trouver les accompagnateurs que des jeunes parce que malheureusement, les jeunes qu'on recherche beaucoup sont des jeunes qui sont qui ne sont pas connus, qui ne savent pas. Sont souvent à la maison, c'est souvent les travailleurs sociaux ou le réseau de la santé qui connaissent ce genre de jeunes-là. Nous, on a de la misère à aller chercher ces jeunes-là parce que la porte d'entrée, malheureusement, est souvent confidentielle par le réseau de la santé. Donc, c'est essayer de parler de nous le plus possible pour à travers le réseau, à travers les organismes communautaires, les écoles et autres pour se faire connaître.
Et côté accompagnateur, est-ce que vous privilégiez des accompagnateurs qui sont dans la même tranche d'âge que les participants?
Oui, effectivement, parce que c'est sûr qu'on veut qu'il y ait une compatibilité aussi avec les jeunes et qu'ils se sentent à l'aise aussi pour ses besoins.
Là, avec l'arrivée de la pandémie, ça a dû changer passablement vos activités?
Oui, effectivement. On a dû se mettre à faire des rencontres parce qu'on voulait continuer à évoluer, continuer à être fonctionnel. Donc, on s'est dirigé à faire des activités en virtuel pour briser l'isolement parce qu'on savait que les jeunes étaient souvent qui voulaient avoir un peu de compagnie ou autre. Donc, on a fait des apéros virtuels, des activités comme Sécurité, bingo en ligne, des jeux de devinettes ou des quiz à peu près aux 2 semaines durant la période du printemps. C'est sûr que là, à la suite de l'été, on s'est rendu compte que les jeunes étaient moins présents sur leur ordinateur. C'était bon signe parce que, oui. Bon, ils sont dehors. Il faut profiter du beau temps. Puis par la suite, on a voulu mettre en place un plan de relance aussi de façon sécuritaire pour respecter les consignes sanitaires. Puis malheureusement, on est tombé dans une roue, donc on n'a pas pu appliquer notre plan pour pouvoir recommencer à faire des activités de façon en présentiel. Donc, on retourne dans la case de départ pour reprendre les activités virtuelles.
Justement, le confinement, ça peut être dur sur la santé mentale et j'ai vu sur vos médias sociaux que c'est un enjeu qui vous préoccupe.
Oui, vraiment. Puis justement pour ça, la semaine dernière, on a fait un atelier, on a fait un atelier à nos membres et à d'autres personnes. Les autres organismes étaient ouverts à tous sur la santé mentale. Donc, comment avoir une meilleure santé mentale, donc avec une intervenante en travail social qui nous a donné un atelier pour justement nous donner des trucs pour si on se sent moins bien ou autre, comment on peut aller chercher de l'aide et autres.
Pour les activités à distance, est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que certains membres étaient moins à l'aise avec la technologie ou pour des raisons financières avaient des problèmes côté équipement?
Non, pour de notre côté, on était très chanceux, on n'a pas eu de problème comme tel avec nos membres. Tout le monde était équipé de façon technologique pour pouvoir suivre l'activité virtuelle.
Faut dire que chez les 18-30 ans, souvent, c'est peut-être quelque chose avec lesquels ils sont plus familiers que d'autres que d'autres générations. Ben, on vous souhaite encore un autre 5 ans et même plus. Et puis peut-être aussi que l'idée se répande d'ailleurs, parce que là, vous desservez la région montréalaise, c'est bien ça?
Oui, la grande région montréalaise, oui.
Alors, on peut peut-être souhaiter aux personnes qui ont des limitations dans d'autres régions qu'un organisme comme le vôtre voit le jour ou que vous puissiez vous étendre. Et puis, on prendra de vos nouvelles à l'occasion pour savoir comment ça se passe. Merci beaucoup, Maude.
Merci à vous. Bonne journée.
Thank you.
sur un texte de Tristan Malavoie. C'était Catherine Durand qui nous chantait « Cœur migratoire », une très belle chanson que j'aime beaucoup et que j'avais envie de ressortir. Maintenant, on va parler de troubles d'apprentissage. Évidemment, le milieu de l'éducation est fortement bousculé par la pandémie, par les mesures sanitaires, par l'enseignement à distance. Et on avait envie de faire le point sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui vivent avec des difficultés d'apprentissage. Alors pour ça, on parle à Lucille Doiron, directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Vous allez bien?
Très, très bien. Très, très bien. Merci de nous accueillir.
Ouais, ça fait plaisir. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis, tout d'abord, en ce moment, il y a une partie des élèves qui sont en classe, mais c'est quand même pas tout à fait la vie scolaire habituelle. Est-ce qu'il y a des impacts des mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque, sur les élèves qui ont des troubles d'apprentissage?
Spontanément, je vous dirais que les élèves qui ont des troubles du langage, qui ont énormément besoin de soutien, rend difficile la correction du langage, mettons. Alors, entre autres choses, et puis bien sûr, tout le contact humain qui est un peu distant. Alors, oui, les enfants, le port du masque a sans doute un effet un petit peu réducteur au niveau de la qualité du service, mais par ailleurs, il faut mesurer. Il faut toujours avoir en tête l'équilibre entre la santé publique et l'éducation.
Tout à fait.
Et y voir une façon de peut-être envisager de travailler autrement. L'enseignant peut utiliser la visière également et son visage est toujours apparent. Alors, et pour la correction du langage assis en classe, actuellement, en tout cas pour les petits encore, le masque n'est pas encore obligatoire. Donc, la rééducation du langage peut se faire, évidemment.
Le fait aussi de ne pas voir son enseignante, surtout si on l'an dernier, à la limite, ça aurait été, on l'a connu le reste de l'année, mais là, ça doit avoir un impact quand même en ce moment. L'idée qu'on ne voit pas le visage de son enseignante tout le temps, pour certaines conditions, est-ce que ça fait une différence?
Oui, absolument. Parce que tout le langage non dit est vécu dans le visage très, très souvent. Donc, la mimique, l'expression, autant l'expression de plaisir ou de malaise, etc., il y a certainement des impacts. Mais comme je viens de mentionner, je crois que les enseignants, professionnellement, sont conscients et sont très bien accompagnés pour la plupart avec des conseillers pédagogiques, une direction d'établissement avec du leadership, les collègues autour et des formations qu'ils ont à prendre pour justement ajuster tout leur bagage, tout leur enseignement. C'est quand même, les gens se virent de bord, là. On est tous conscients que le travail du personnel est mis à rude épreuve et je pense qu'il y a de la résilience là-dedans énormément. Et les enfants eux-mêmes sont extrêmement résilients. On observe des choses formidables qui sont en train de se passer. Cela ne minimise pas les difficultés, bien sûr, qui existent là.
Okay. Non, mais on assiste à beaucoup de créativité. J'ai une amie enseignante qui s'est fait faire des macarons avec son visage.
C'est
sur elle,
bon.
Parce qu'elle est en classe d'accueil et c'est ça, le langage, tout ça, c'est très important.
Ben oui, en classe d'accueil, l'apprentissage du langage, c'est le rythme de la bouche en lien avec les sons, tu sais.
Oui, tout à fait. Évidemment, il doit y avoir aussi des coupures de service dans tout ce qui est l'aide aux devoirs. Est-ce que les parents sont un petit peu plus laissés à eux-mêmes?
Au niveau de l'aide aux devoirs spécifiquement, je ne pourrais pas m'avancer, mais je sais qu'il y a des organismes d'aide aux devoirs qui doivent prendre le relais. Est-ce que les enfants vont sur place pour l'aide aux devoirs ou ils sont, eux, en télétravail? Par le biais d'une petite caméra, là. Je sais aussi que AlloProf est très, 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 très actif. Et nous-mêmes, à l'Institut des troubles d'apprentissage, nous avons lancé, à l'ouverture de l'année, un réseau d'entraide pour les parents à l'Institut. Alors, on invite tout le monde à aller visiter notre site pour pouvoir rejoindre le réseau d'entraide Parents Québec. Alors, c'est vraiment pour les parents qui ont des enfants en trouble d'apprentissage ou des défis particuliers. Nous avons sur ce réseau d'entraide, on a des capsules pour les parents. On a des cafés rencontres live, là, à chaque semaine pour les parents. Alors, on répond aux questions des parents, puis on organise les cafés rencontres en lien avec les questions les plus souvent soulevées par les parents. Alors, on a une belle affluence. On est très, très fiers de ce réseau-là. Donc, il y a des capsules vidéo, il y a des dossiers thématiques sur le réseau. Il y a une docteure en éducation et en adaptation scolaire, en fait, qui parle aux parents 2 à 3 heures par jour pour répondre correctement à la demande des parents durant cette période de pandémie. Alors, et de difficultés scolaires sûrement très présentes, là, pour s'il y a une éclosion dans la classe et que les parents doivent garder les enfants à la maison, on se retrouve avec une autre réalité. Et là, les parents, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de savoir comment faire.
C'est ça. Alors, parce voilà. Qu'il y a les classes où il y a des cas qui se retrouvent en apprentissage à distance. Mm-hmm. Il y a les 4e et 5e secondaires qui le font en alternance.
Ouais.
Et cégep et université aussi est à peu près complètement...
À peu près complètement en ligne. Alors, contrairement à ce qu'on croyait, le taux de rétention des étudiants, donc l'abandon scolaire, est pas à la hauteur du drame qu'on a voulu contrer. Alors, c'est une très bonne nouvelle.
Oui.
Les étudiants du collégial et de l'université maintiennent leur présence à l'école, à l'université et au collège. Et les mesures d'aide existent, évidemment. Et dans chaque établissement, c'est important que les parents le sachent, dans chaque établissement universitaire et collégial, il y a un service d'aide pour les parents. Pour les étudiants.
Pour les étudiants. Okay. Oui, parce qu'on imagine qu'il y a rendu là...
Oui. Non, mais que les parents le sachent, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est vrai.
Mais que le jeune sache que s'il a des besoins particuliers, il y a de l'aide dans son établissement post-secondaire pour le soutenir. Et la même chose en formation générale pour adultes et en formation professionnelle. Alors, j'en profite aussi pour dire que notre réseau d'aide, le réseau d'entraide parents, on a exactement le même réseau, mais un autre réseau. Là,
celui-là dédié aux jeunes adultes.
Les adultes. Oui. On a pour les adultes et on a pour les parents. Alors, vous êtes bienvenus... aller consulter.
Est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont associés à l'enseignement à distance quand on a des troubles d'apprentissage?
Oui, le temps. La durée d'attention. La durée d'attention doit être un élément pris en considération par l'enseignant. Également, de faire parler, d'avoir une communication interactive avec les étudiants. C'est important pour garder l'attention et de présenter de la théorie, mais visuellement avoir des images, faire en sorte qu'on crée plusieurs sources pour que la mémoire retienne l'information avec plusieurs données. Et c'est sûr que c'est différent assis dans une classe. Mais par ailleurs, si l'enseignant utilise ses stratégies, souvent, l'élève qui a des troubles d'apprentissage ou des difficultés d'attention a peut-être un petit avantage à certains moments, dépendamment, bien sûr, parce que l'écran maintient l'attention, on le sait, là. Alors, ça peut être, ultimement, ça pourrait être aidant, mais il faut être très vigilant sur la façon de faire.
Et si
actuellement, on a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup, beaucoup, si on va sur le site du ministère de l'Éducation, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'outils pour amener l'enseignant à travailler davantage dans une approche de formation à distance.
Et est-ce qu'il y a un impact sur les évaluations?
Les évaluations, il faudra voir là comment le... Je sais qu'actuellement, peut-être que les parents ne sont pas encore informés où ils le sont. Là. Le ministère a conclu qu'il n'y aurait pas 2-3 bulletins cette année, mais qu'il n'y en aurait que 2. Alors, pour justement permettre à tout le monde de s'ajuster puis s'adapter à ces nouvelles façons de faire.
Et j'imagine qu'il y a aussi un impact sur vos activités. À vous, normalement, à l'automne, il y avait un colloque.
Colloque pour les parents. Alors, on est avec notre réseau d'entraide puis nos cafés rencontres qu'on veut intensifier puis qui sont virtuels, puis même s'ils sont en ligne direct avec notre spécialiste. Pour l'instant, on comble un petit peu avec ça, mais on a une belle prévision pour les colloques, là. On se dirige vers ça. Mais par ailleurs, notre congrès annuel qui était en ligne en juin dernier.
Oui.
Sera également en ligne en mars prochain, 24, 25 et 26 mars prochain, pour l'ensemble du personnel d'établissement, des organismes et les parents. L'an dernier, nous avons accueilli beaucoup, beaucoup de parents qui font l'école à la maison ou qui font l'école à la maison par intervalle de d'éclosion dans les établissements ou tout simplement parce que leur enfant ne se sent pas bien pour quelque temps sans avoir la COVID, là. Il doit rester à la maison. Les parents, de plus en plus, sont intéressés à savoir comment faire sur certains éléments en devenant pas des spécialistes de matière.
C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais ça fut très éclairant. Merci beaucoup, Mme Doiron, directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage. Et on invite les gens à aller voir vos groupes de discussion.
Oui, puis notre congrès et puis notre réseau d'entraide. Merci infiniment de
nous avoir accueillis.
Au revoir, bonne journée.
Vous écoutez Accès libre.
Et vous êtes avec Christiane Campagna à l'animation, à la recherche aussi. Je mets l'émission en ligne aussi. Et sur Facebook, des fois, je fais deux, trois petites choses là, comme ça, en lien avec les émissions. Il y a Jean-Sébastien Laliberté qui est avec moi de l'autre côté de la vitre, de l'autre côté de la deuxième vitre, parce que maintenant, on a une vitre aussi. Ben, on a un plexiglas dans le studio pour quand on accueille des gens en studio. Mais là, au téléphone, on a Antoine Perrault, qui est directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et on va faire le point sur différents dossiers en lien avec la pandémie, avec l'accès à l'information. Bonjour Antoine.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. De manière générale, là, depuis on s'était parlé de ce sujet-là au printemps, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration dans le sens où du côté du gouvernement, par exemple, est-ce qu'on pense un petit peu plus en amont à rendre les choses accessibles?
De plus en plus, je vous dirais. C'est pas encore parfait. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais au moins, on a une meilleure écoute et on a des entrées plus directes pour faire améliorer les choses.
Mais il faut continuer de veiller au grain, disons.
Tout à fait. C'est ce qu'on fait et qu'on n'arrête pas de faire.
Et justement, en ce moment, vous menez une enquête auprès des utilisateurs pour savoir si l'application COVID est accessible.
Oui.
Est-ce que vous avez commencé à obtenir des réponses?
Oui, on a obtenu plusieurs réponses. Je peux vous dire que l'application, elle est, selon ce que je peux voir qui se dégage pour l'instant des résultats, relativement accessible. Je pense que le besoin que les gens auraient, puis c'est ce qu'on va probablement amener au gouvernement, c'est du support pour bien comprendre l'application de faire à quoi et bien comprendre comment l'utiliser. Ceci étant dit, ce que je peux voir pour l'instant des résultats, le téléchargement et la navigation sont accessibles. Malheureusement, on n'a pas pu avoir, heureusement en fait, je peux dire, on n'a pas pu avoir de précision sur est-ce que l'utilisation de la clé qui nous donne quand on a un test positif est accessible parce qu'il n'y a aucune personne qui a répondu qui n'a eu un diagnostic positif de COVID, ce qui est une très bonne chose. Hein,
oui, c'est ça.
Mais dès qu'on va avoir plus d'informations par rapport à ça, on va aller de l'avant avec des recommandations au niveau du gouvernement. Là.
C'est ça, il faudra avoir une façon de tester qui n'implique pas que quelqu'un soit malade.
Ben, on va travailler aussi à avoir ça en amont, là, idéalement.
J'ai aussi vu que vous aviez contacté la ministre de la Culture pour que le service québécois du livre adapté soit considéré comme un service essentiel. Il avait été interrompu au printemps. En ce moment, est-ce qu'on sait s'il est encore?
Non, pour l'instant, il n'est pas interrompu. Il fonctionne encore parce que les employés de BANQ peuvent avoir accès à leur bureau. Donc, tout ce qui est service d'envoi du SQLA fonctionne. Ceci étant dit, nous, ce qu'on veut éviter, c'est que si on essaie de travailler à long terme, s'il y a un deuxième reconfinement général qui a lieu et que les employés de BNQ n'ont plus accès à leur bureau, on veut quand même que ce soit considéré comme un service essentiel de SQLA. Puis c'est en ce sens-là qu'on fait des représentations auprès du gouvernement en ce moment-là.
Parce qu'au printemps dernier, alors que les utilisateurs de livres réguliers ou de livres électroniques réguliers pouvaient continuer à emprunter à distance, mais les personnes qui avaient besoin du livre audio n'avaient pas d'alternative.
Ben, faut faire attention. En fait, de ce que moi j'en sais, les personnes qui pouvaient utiliser les services de location électronique, c'est-à-dire télécharger des formats électroniques de livres, pouvaient continuer à le faire. Ceci étant dit, il n'y avait aucun employé de BANQ qui avait accès à leur bureau. C'est pour ça que les utilisateurs de SQLA n'avaient pas accès à l'envoi de documents puis de livres par la poste, parce que les employés n'étaient pas physiquement sur place.
Donc, c'est pour ceux qui utilisent encore le lecteur Victor avec CD?
Oui, ou les livres directement. Là.
OK. Ah, OK. Oui, je comprends. Là. On parlait justement avant la pause d'éducation à distance avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des retours? Comment ça se passe au cégep, à l'université, par exemple, pour l'accessibilité des cours?
Bien, c'est sûr que, puis là, c'est très complexe comme dossier. Nous, on est en attente d'une rencontre avec le ministère de l'Éducation pour en discuter avec lui. On l'avait déjà fait par le passé, puis là, on veut continuer nos discussions parce que ça va beaucoup dépendre de la plateforme que le professeur va décider d'utiliser pour donner ses cours à distance. Ça va beaucoup dépendre de la plateforme que le professeur va utiliser pour diffuser son information et sa matière plus au niveau papier, là, sans dire papier, tout ce qui est électronique, tout ce qui est document d'information. Puis c'est pour ça qu'on veut discuter avec le ministère, parce qu'il faut absolument que le message qui vienne du ministère, ce soit les plateformes doivent être accessibles tant au niveau de la diffusion du cours que de la diffusion de l'information.
Par exemple, si le prof prévoit des PDF, des choses comme ça?
Bien, si c'est des PDF, ça doit être des PDF accessibles. Idéalement, en format accessible directement, là, du Word, c'est plus simple, mais au-delà de tout ça, de penser à si les étudiants ont besoin de livres supplémentaires qui n'étaient pas prévus, par exemple, pour pallier à une absence en personne, ben, il faut que ces livres-là soient aussi disponibles en format alternatif ou qu'ils puissent se faire mettre en format alternatif. Il y a des délais. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération aussi. Là. C'est pour ça qu'on veut rencontrer le ministère.
Et surtout quand on considère, on en avait discuté avec INCA, que même en temps normal, il y avait parfois des retards pour les manuels.
Oui, ben c'est ça. Déjà, c'est pas simple d'avoir ces manuels en format adapté. Là, si on rajoute qu'il y a de plus en plus de gens à distance, c'est quoi les mesures que les professeurs vont prendre? Il faut qu'il y ait des directives claires qui viennent du ministère de l'Éducation. Je pense que le milieu scolaire en réclame depuis très longtemps. Faut pas penser que ça se limite au primaire, au secondaire. Faut penser aussi au cégep, à l'université. Mais même au primaire, au secondaire, c'est des choses qu'on va rencontrer là, avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation. C'est sûr que les étudiants vont être amenés à étudier de plus en plus à distance. Faut que ça se fasse de manière accessible.
On prétend, on avait beaucoup parlé de la question de l'accompagnement qui parfois posait problème là, avec les règles de distanciation. Est-ce que ça a été réglé, ça, le fait qu'il y a des exceptions qui existent?
Ça l'a été réglé dans une certaine mesure. Nous, puis en fait, faut pas oublier que dans l'absolu, quand on regarde les décrets, ça n'a jamais été un enjeu. Au sens où ça le dit très clairement dans le décret que pour l'accompagnement, compte tenu que c'est une personne qui reçoit d'une autre personne un service ou son soutien, ça n'a jamais été interdit. Et ça, on l'a clarifié avec la santé publique très rapidement. Sur notre site web, il y a une copie de la lettre qu'on a reçue du Dr Arruda en réponse à nos demandes. Ceci étant dit, je pense qu'il y avait un gros enjeu au niveau de la compréhension sur le terrain.
De ceux qui appliquent la loi.
Ça peut être autant de ceux qui appliquent la loi que faut pas oublier que c'est pas uniquement une question d'appliquer la loi. À une époque, il y a eu des commerces qui comprenaient que tu rentrais à une personne, peu importe la situation. Et là, ben, il y a des personnes qui ont pu avoir refusé l'accès à un commerce parce qu'il y avait un accompagnateur ou une accompagnatrice. C'était vraiment pas uniquement au niveau de l'application de la loi, c'est au niveau de la compréhension sociale du rôle que pouvait avoir un accompagnateur. Donc, c'est sûr que la santé publique nous l'a clairement indiqué dans une lettre. On demandait aussi des précisions sur comment est-ce qu'on peut accompagner de manière sécuritaire. On en a eu quelques-unes, mais c'est sûr que c'est un dossier qui est loin d'être fini, parce que maintenant qu'on a des documents plus officiels qui précisent, bien, c'est sûr qu'il faut passer à la table sensibilisation. Pour l'instant, on est chanceux et on touche du bois. Dans l'absolu, il n'y a pas eu encore de réaffirmation d'une seule personne par commerce dans bien des endroits. Mais il faut rester vigilant là-dessus, là.
Et pour ce qui est des règles de confinement là, de cette deuxième vague, on voit qu'il y a eu beaucoup de... On était sensible cette fois-ci à mettre des exceptions pour les gens habitant seuls. Est-ce que ça couvre bien les besoins, par exemple, d'une personne qui a un handicap visuel et qui habite seule et qui a besoin que quelqu'un vienne lui, par exemple, pour le ménage ou des choses comme ça?
Bien, c'est qu'il faut faire attention. Au mieux de ma compréhension, cette norme-là, c'est vraiment beaucoup pour les personnes qui habitent seules et qui veulent recevoir de la compagnie. Tout ce qui est soutien, ça revient à dire que le soutien offert par une personne à une autre personne n'est pas compris dans le décret, dans l'interdiction. Donc, une personne qui vient chez une autre personne pour faire son ménage parce qu'elle en a besoin, une personne qui va faire l'épicerie avec ou pour une personne, c'est toutes des choses qui ne sont pas comprises dans l'interdiction.
OK. Donc, de ce côté-là, ça va bien.
Le décret le dit très, très clairement. Sauf si une personne reçoit d'une autre personne un service ou un besoin. Un service ou un soutien, pardon.
Oui, voilà.
Fait que pour ça, on est correct.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers que vous avez à l'œil présentement, que vous gardez de près?
Bien, plusieurs dossiers. Tu sais, je vous dirais que pour l'instant, on est aussi à tout ce qui est accès à l'information reste extrêmement important. Que ce soit, on en parlait un peu là, au niveau des informations, de l'éducation, des fournitures scolaires, mais aussi tout ce que le gouvernement envoie comme information, c'est extrêmement important que ça soit accessible. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des lacunes. Si on prend le guide d'auto-soins, par exemple, on se rappellera que ça a pris beaucoup de temps et beaucoup d'interventions de la part du RAC pour obtenir des versions accessibles. Et des versions alternatives aussi de ce document-là. Puis il y a encore des documents qui sont produits et qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas fournis en format alternatif. Fait qu'on continue ce combat-là aussi, là.
Bien, on vous souhaite que ces choses-là se règlent rapidement et qu'il n'y ait pas trop de nouveaux obstacles qui se mettent. Et que peut-être que cette COVID-là soit, au bout du compte, soit une occasion d'avoir sensibilisé davantage, peut-être, sur l'importance de l'accès à l'information.
Bien, on espère. C'est sûr que c'est dommage si le constat qu'on fait, c'est que ça prend une pandémie pour que le gouvernement réalise que quand il fait de l'information, il faut que ce soit accessible à toutes et à tous. Mais si ça peut ressortir, tant mieux.
Bien, Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Excusez-moi, j'ai failli vous changer d'organisme. J'étais partie sur un élan. Bien, merci beaucoup, puis on continue de garder contact et de se tenir au courant.
Bien, un gros merci. Passez une bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Toi, la télé et moi. des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Le dîner, une chanson de Benabar qui nous rappelle l'époque où on avait l'occasion de refuser des invitations. Et où c'était un choix dont on devait convaincre sa blonde de rester à la maison et de commander de la pizza. C'est vraiment une chanson complètement d'une autre époque. En tout cas, une époque bien différente de la nôtre. Octobre est le mois du nanisme et on a justement... Ben, j'avais envie d'approfondir un peu, d'aller au-delà de juste la campagne en cours. Et parce que... ces mois de sensibilisation-là ont pour objectif, évidemment, de contrer les préjugés, les idées reçues, et quoi de mieux que de se renseigner à ce sujet-là. Et pour ça, ben, j'ai invité Nathalie Labelle, qui est conseillère en inclusion sociale et en défense des droits à l'Association québécoise des personnes de petite taille, de parler plus profondément des causes du nanisme et des impacts sur la santé. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. La campagne se passe bien du mois d'octobre?
Oui, oui. Ben, le travail, c'est un travail qu'on fait à l'année, 365 jours par année. Mais c'est toujours bon de mettre un petit peu plus l'accent pendant le mois d'octobre. Donc, on vous remercie d'en parler. Parce qu'effectivement, le nanisme, c'est très méconnu encore, malgré tout. Donc, les gens ne connaissent pas les causes, que c'est des maladies. Avant tout, c'est des conditions médicales. Il y en a plus de 500 à travers le monde. C'est des maladies rares. Ça fait partie de la grande famille des dysplasies osseuses, entre autres.
C'est ça. C'est beaucoup plus que de dire « j'ai pas grandi ».
Mais c'est ça. Donc, mais oui, on est de petite taille. Oui. Oui, on est plus petite que la moyenne, que la dite normale, normalité. Mais c'est à cause de quoi? Donc, c'est des conditions médicales, osseuses, hormonales. Habituellement, ça vient de la génétique. Donc, c'est toutes des conditions génétiques rares. Donc, 80%. Ce que les gens ne réalisent pas non plus, c'est que 80% des personnes de petite taille, ils sont les seuls dans leur famille. Donc, c'est la génétique, c'est des mutations génétiques spontanées qui ont lieu lors de la conception. Donc, les parents, parfois, lors de l'échographie pendant la grossesse ou à la naissance, ou même quelques mois, quelques années après la naissance, vont avoir le diagnostic que leur enfant est de petite taille. Donc, quand on dit aussi conditions médicales rares, mais on dit aussi complications médicales. Donc, c'est pas juste d'être plus petit, puis bon, on adapte, on s'ajuste, c'est des suivis médicaux très fréquents et très multiples. Ça peut être compression de la colonne vertébrale, ça peut être des otites, surdité, l'hypotonie, les hanches, les genoux, les jambes, le cœur.
C'est quoi l'hypotonie? L'hypotonie,
c'est le tonus musculaire qui a un manque de tonus musculaire. Donc, plusieurs enfants, dès leur naissance, vont avoir de l'hypotonie. Donc, ils vont avoir besoin d'avoir de l'ergothérapie, de la physiothérapie, des suivis, des exercices réguliers, plusieurs fois par semaine, des fois, pour avoir pour augmenter leur tonus musculaire. Parce qu'un manque de tonus musculaire peut affecter la déglutition, donc avaler, peut affecter la parole, donc apprendre à parler, peut affecter le maintien de juste la position assise, tenir sa tête. Donc, c'est toute l'évolution de l'enfant de petite taille va être sensiblement peut-être ralenti. Ils vont avoir besoin de beaucoup de suivis médicaux à ce moment-là pour éventuellement s'asseoir, pour éventuellement marcher, pour éventuellement parler, pour éventuellement... Mais ils le font tous, mais à des moments différents selon chacun et selon leur type de nanisme. Parce que, comme je disais, il y a 500 types de nanisme, oui, dont des très, très rares, et les complications médicales ne vont pas être les mêmes et au même grade selon un type de nanisme versus l'autre.
Il y a aussi des conséquences qui arrivent plus à long terme, par exemple, par rapport à la mobilité. Est-ce qu'il y en a qui sont la conséquence de... ben, de vivre dans un monde qui n'est pas fait pour vous?
Exactement, c'est ça. Le vous l'avez dit, l'environnement, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans les lieux publics, rien n'est accessible ou adapté pour nous. Nous, on doit soit vivre avec ou adapter. Donc, vivre avec veut dire des petits bancs, des marchepieds. C'est très... vu que c'est des conditions osseuses, juste vous donner des exemples. Nous, quand on marche, mettons vous, quand vous marchez, vous faites un pas, nous, on va en faire deux ou trois pas pour le même pas que vous faites. Quand vous montez les marches d'un escalier, pour vous, c'est très banal. Il y a même des gens qui montent deux marches à la fois pour aller plus vite. Mais nous, la marche, la hauteur de la marche va peut-être nous arriver à moitié de la jambe. Donc, c'est un effort pour monter à chaque fois les marches pour le dos, pour les hanches, pour les jambes. Donc, ça amène de l'usure prématurée des articulations souvent. On s'en rend pas compte quand on a 2 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, mais quand on arrive à 30 ans, 40 ans, ben ça peut se répercuter avec des compressions au niveau de la moelle épinière, ça peut se répercuter avec des usures au niveau des hanches, au niveau des genoux, donc prothèse de hanche, prothèse de genou, laminectomie dans la colonne vertébrale, ou même le fauteuil roulant éventuellement, pour certaines personnes qui ne sont plus en mesure de marcher et de fonctionner, vont être obligées de marcher avec une canne ou avec même le fauteuil roulant éventuellement. Donc, l'importance de bien, d'avoir un suivi médical, l'importance d'adapter son quotidien pour avoir le moins de douleur, le moins de fatigue et pour en demander moins à notre corps au niveau osseux.
Quand on parle aussi d'impact sur la santé, c'est que j'imagine qu'il y a aussi un impact sur la pratique de l'activité sportive qu'on fait généralement pour se maintenir en santé.
Oui, ben c'est ça. Effectivement, le sport, hein, c'est bon pour la détente, c'est bon pour bouger, c'est bon pour socialiser aussi. Puis, on en a besoin, nous aussi. C'est sûr que c'est du cas par cas. C'est une question de goût aussi, c'est une question d'aptitude. On recommande effectivement de bouger, on recommande de faire du sport. On a des gens qui font la natation, le vélo, le karaté, on a même le badminton, puis on a même des gens, tu sais, souvent on fait le sport juste pour les loisirs, mais il y a quelques personnes de petite taille qui font le sport un peu plus intensément parce qu'il peut même avoir du paralympique. Donc, on a des gens qui peuvent aller en natation au niveau paralympique. On a des gens au niveau du badminton. Ça va être, si je me trompe pas, au niveau des prochains Jeux olympiques, là, ça va être un nouveau sport paralympique, le badminton. Donc, il y a des membres qui aiment ça puis qui s'entraînent régulièrement pour même aller faire du paralympique. Mais encore là, on doit adapter son équipement. Donc, le vélo peut s'adapter, la raquette de tennis peut s'adapter, les bâtons de golf peuvent s'adapter. Donc, on réussit à trouver moyen d'adapter notre sport pour en faire avec nos amis, notre famille ou même à l'école.
Est-ce qu'il existe comme des ligues ou des choses comme ça? On sait que, par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant, ils peuvent s'organiser des équipes pour certains sports.
C'est sûr que c'est plus difficile pour les personnes de petite taille, étant donné qu'on est peu nombreux. Mais pour le badminton, il existe effectivement une catégorie pour les personnes de petite taille. Ils ont un club là, où ils s'entraînent. Là, c'est plus difficile, les entraînements depuis la pandémie, là, le confinement et tout. Mais ils ont effectivement un endroit pour s'entraîner entre eux plusieurs fois par semaine pour aller éventuellement dans des compétitions à travers le monde ou les Jeux olympiques aussi. Ouais. Mais c'est plus rare parce que les personnes de petite taille ne pratiquent pas tous les mêmes sports, ne font pas toutes au même niveau, puis c'est réparti à travers le Québec parce que on est peu nombreux. On a de la difficulté d'avoir une statistique concluante, mais on peut dire qu'on est moins de 3000 personnes au Québec, là, okay, de tous âges, là, qui sont de petite taille. Donc, c'est pas beaucoup quand on pense sur une population de plus de 8 millions. Là. Donc, c'est ça.
Est-ce que être de petite taille, ça a des conséquences quand vient le temps d'avoir des enfants? Par exemple, sur la grossesse.
Oui, c'est sûr que les femmes de petite taille peuvent avoir des enfants. Tout dépendant de son type de nanisme. Si on prend la chondroplasie, qui est la maladie osseuse la plus courante, quand vous voyez en général dans la rue une personne de petite taille à chondroplasie, vous allez remarquer que son tronc est de grandeur sensiblement régulière. C'est la disproportion avec les jambes et les bras. Les bras et les jambes sont beaucoup plus courts. Donc, étant donné que son tronc est de grandeur presque régulière, elle peut porter effectivement un enfant. C'est sûr que ça demande un suivi malgré tout. Lorsque arrivera l'accouchement, ben en général, c'est une césarienne. Et aussi, ben il faut toujours rentrer en penser au niveau de l'enfant, il y a 50% des possibilités qu'il soit de petite taille ou bien 50% qu'il soit de taille régulière, tout dépendant si le père est de taille régulière ou non.
Et vous avez accès à des services, je pense à la clinique Parents Plus pour de l'équipement,
oui,
ou des choses comme
définitivement,
ça.
Oui, définitivement. Le nanisme, c'est un handicap. Là. Ça, nous, les personnes qui ont le nanisme, ils vivent en situation de handicap. Donc, effectivement, on peut avoir besoin d'aide technique et on peut avoir besoin de faire affaire avec des ergothérapeutes et tout ça. Et définitivement, la clinique Parents Plus, on a plusieurs membres quand qu'elles ont été enceintes et après ça, avec leur bébé, elles ont fait affaire avec la clinique Parents Plus. Juste donner un exemple, le lit de bébé, nous, un lit de bébé standard, c'est très difficile parce que d'avoir accès au matelas, d'avoir accès au bébé qui est couché sur son matelas. Donc, le lit Ottawa qu'ils peuvent fournir aux mères et aux familles, ben il y a la porte qui s'ouvre sur le côté et qui, oui, nous donne accès plus facilement au matelas sans déranger le bébé quand il dort, puis sans que ça soit pénible aussi pour nous. On n'a pas à grimper sur un marchepied, quoi que ce soit. C'est très, très pratique, ce lit de bébé-là, entre autres. Là.
En terminant, Nathalie, pour les gens qui voudraient en savoir plus, qui voudraient connaître, vous allez bientôt lancer des capsules?
Oui, le 25 octobre, sur notre site Internet ainsi que notre page Facebook, on va lancer des capsules qui parlent, parce que cette année, le mois du nanisme, on a axé ça sur les préjugés, parce que c'est comme de raison un autre aspect très important, oui, que les gens, malheureusement, vivent encore les moqueries, les rires et tout ça, et ça va affecter l'acceptation de sa différence et son estime de soi. Donc, on a mis pour monsieur, madame, tout le monde, les gens auront accès à ces deux capsules-là avec les petites questions pertinentes qu'on se fait régulièrement, malheureusement, poser. Et ils vont voir à ce moment-là
C'est tout le temps qu'on a, on invite les gens à aller sur le site de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Merci beaucoup, Nathalie Labelle.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
Et c'est tout pour aujourd'hui pour Accès Libre. On se retrouve très bientôt.